Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous et la conversation. Au programme, comment régler les problèmes d'humidité dans la maison? Rébus encombrants sur le trottoir ou à l'éco-centre? Voici pourquoi nous rions lorsque quelqu'un tombe selon la science. Et les plantes peuvent-elles purifier l'air de nos maisons? Bonne écoute!
Comment régler les problèmes d'humidité dans la maison? Un texte de Stéphanie Lalu et Marie-Ève Schaffer, paru le 15 décembre 2022 dans Protégez-vous. Le bas de vos fenêtres ressemble aux traces laissées par un verre de limonade posé sur la table en pleine canicule? Votre maison a peut-être un problème d'humidité. Voici quoi faire pour remédier à la situation. Vous pensez que le taux d'humidité est trop élevé dans votre maison, vous n'êtes pas seul dans cette situation, mais vous devez agir vite pour limiter les dégâts. Vous pouvez déceler un taux d'humidité excessif par une odeur de terre humide ou de moisie. La formation de moisissures est un autre signe avant-coureur. Vous trouverez alors des taches noires, blanches ou vertes sur les murs, le plafond, le bord des fenêtres, les tapis et les tissus. Soyez également à l'affût de la peinture qui s'écaille et du plancher qui se déforme. Sachez que plus il y a d'eau, plus les moisissures sont susceptibles de se développer. Ces champignons microscopiques endommagent les matériaux sur lesquels ils croissent. Ils dégagent en plus des toxines et des spores qui sont la cause de troubles respiratoires et de nombreuses allergies. Pour dénicher la présence de moisissures, évitez d'avoir recours à une analyse de la qualité de l'air. Santé Canada mentionne qu'un tel test ne vous indiquera pas l'origine du problème. Comme la moisissure fait naturellement partie de l'environnement, il y a toujours des spores de moisissure dans l'air, précise également le ministère fédéral. Le taux d'humidité d'une maison devrait se situer entre 30 et 50. Plus bas, il y a plus d'électricité statique et les voies respiratoires peuvent s'assécher et devenir irritées. Et au-delà de 50, bactéries, moisissures et acariens prolifèrent. Les personnes asthmatiques ou souffrant d'allergies respiratoires profiteront d'un taux d'humidité se situant entre 40 et 45. Pour prévenir l'apparition de moisissures, nettoyez régulièrement toutes les surfaces et passez l'aspirateur afin d'éliminer les spores de votre maison. Pour avoir à l'œil le taux d'humidité, procurez-vous un hygromètre. Dès que l'aiguille dépasse 50, réagissez. Un déshumidificateur vous sera utile en attendant de trouver l'origine de cette quantité importante d'eau dans l'air. Surtout, rappelez-vous qu'une humidité excessive entraîne l'apparition de moisissures qui peuvent endommager la structure de votre demeure. La condensation sur les fenêtres peut sembler anodine sur un cadrage en PVC, mais elle risque de se frayer un chemin en dessous et d'attaquer le bois. Attention, si les moisissures couvrent plus d'un mètre carré, qu'elles réapparaissent constamment malgré vos efforts de nettoyage ou que vous ignorez la cause de ce problème, consultez rapidement une entreprise qui possède une expertise dans les problèmes d'humidité. Assurez-vous qu'elle détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec et vérifiez auprès de l'Office de la protection du consommateur si elle a fait l'objet de plaintes. Bon à savoir. Dans le cas d'une maison neuve, il est normal que le taux d'humidité soit plus élevé durant la première année. Le béton du sous-sol et le bois de construction ne sont pas complètement secs. C'est ce qui explique souvent les traces de condensation au bas des murs. Quatre sources d'humidité qui apparaissent avec le temps. Infiltration. L'eau peut s'introduire dans votre maison de plusieurs façons. Dans la cave, la composition du sol, l'inclinaison du terrain ou même l'usure des matériaux sont des causes fréquentes d'infiltration d'eau. Un drain français bloqué ou un problème avec la fosse de retenue peuvent aussi permettre à l'eau de se frayer un chemin. Même chose quand les gouttières sont bouchées ou mal installées ou que le calfeutrage des portes et des fenêtres est sec. En cas de doute, Faites appel à un expert pour trouver la source de ces infiltrations. La chaleur dans le vide sous le toit. La ventilation dans le comble, entre toi, de votre résidence est-elle suffisante? L'isolation y est-elle adéquate? Si vous répondez non à l'une de ces questions, votre maison est à risque. Un barrage de glace risque de se former sur le toit et d'entraîner des infiltrations d'eau pendant le dégel printanier. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment régler les problèmes d'humidité dans la maison », un texte de Stéphanie Lalu et Marie-Ève Schaffer, paru le 15 décembre 2022 dans « Protégez-vous ». Mauvaise évacuation de l'air humide. Nos habitudes de vie peuvent produire beaucoup d'humidité. Prendre une douche et cuisiner crée de la vapeur, tout comme faire sécher de grosses brassées de linge à l'intérieur. Les plantes et les aquariums augmentent aussi la quantité d'eau dans l'air. Or, certaines salles de bain et cuisine ne sont pas munies d'un ventilateur ou d'une hotte pour expulser l'air humide. Sous-sol mal adapté à un usage intensif. La majorité des sous-sols, construits jusque dans les années 1970, n'étaient pas conçus pour être aménagés en salle de jeu ou en chambre. Des propriétaires qui les ont rénovés sans le savoir sont surpris d'y retrouver des problèmes d'humidité dans les murs ou les tapis. Régler définitivement les problèmes. Afin de régler définitivement les problèmes d'humidité dans une maison, il faut tout d'abord corriger la structure. Fuite. Assurez-vous de trouver la source de ces fuites, toiture, revêtement extérieur, comble, gouttière, drainage, etc., et effectuez rapidement les travaux nécessaires. Ventilateur, extracteur dans la salle de bain. L'installation ou le remplacement d'un ventilateur est essentiel. Prenez l'habitude de le faire fonctionner pendant les douches et les bains. Pour être efficace, votre ventilateur doit expulser au moins 50 pieds cubes d'air à la minute. Choisissez un produit certifié par le Home Ventilating Institute, ce qui vous assurera qu'un laboratoire indépendant a vérifié les données sur le bruit et le débit d'air. Vous trouverez ces informations sur les modèles vendus en magasin. Hotte de cuisine. Mettez-la en marche dès que vous commencez à cuisiner. Elle doit pouvoir extraire au moins 250 pieds cubes à la minute. Les conduits d'évacuation doivent idéalement mener vers l'extérieur et surtout pas dans le comble, afin d'éviter de créer un autre problème d'humidité. Recherchez encore une fois un appareil homologué par le Home Ventilating Institute. En complément, envisagez l'installation d'un échangeur d'air ou d'un climatiseur qui peut lui aussi faire office de déshumidificateur en asséchant l'air. Déshumidificateur. Pour réduire le taux d'humidité dans la maison, considérez l'achat d'un déshumidificateur. Cet appareil peut vous être utile si vous voulez rendre votre sous-sol plus confortable ou si vous n'avez pas encore trouvé la cause de la forte humidité présente chez vous. Habitude de vie. Avant de vous coucher, laissez les stores ou les rideaux entrouverts afin de permettre à la chaleur de la pièce de se transmettre aux fenêtres et de prévenir la condensation excessive sur les vitres. Dégagez les fonds de garde-robe du sous-sol et autres endroits frais où les moisissures ont tendance à apparaître. Évitez également les douches interminables et ne faites pas sécher de vêtements à l'intérieur. Limitez aussi l'utilisation de l'humidificateur. C'était Comment régler les problèmes d'humidité dans la maison? Un texte de Stéphanie Lalu et Marie-Ève Schaffer, paru le 15 décembre 2022 dans Protégez-vous. Rebut encombrant. Sur le trottoir ou à l'écocentre? Un texte de Jean-François Gazaille, paru le 7 juin 2022 dans Protégez-vous. Tout grand ménage annuel ou déménagement est l'occasion idéale de se départir de vieux meubles ou d'objets devenus inutiles. Mais comment le faire intelligemment? Il y a autant de réponses que de municipalités au Québec. Chacune d'elles définit le calendrier et les règles de la collecte locale ou du réemploi des gros objets dont vous ne voulez plus. Certains articles peuvent par ailleurs être confiés à plus d'un type de point de dépôt, commerce, organismes communautaires, éco-centres, etc. Il y a généralement des contraintes de volume et de poids, de même que des mesures de sécurité à respecter afin d'éviter qu'un préposé se blesse au moment du ramassage. Certaines municipalités proposent la collecte des objets encombrants en tout temps, souvent sur réservation. Ainsi, à Montréal, elle est offerte toute l'année, indique le site de la ville. À Saguenay, les monstres ménagers doivent être simplement placés au bord du chemin le jour de la levée régulière des ordures pour être emportés dans les 48 heures. À Trois-Rivières, la collecte a lieu sur demande une fois par mois. À Gatineau, ce sont deux organismes communautaires mandatés par la ville qui, dans les deux semaines suivant votre requête, prendront livraison de vos articles réutilisables ou recyclables. Cependant, la plupart des villes et MRC s'en tiennent à quelques rendez-vous dispersés dans le calendrier. Évidemment, il y a collecte de gros déchets à certains moments clés de l'année, notamment après la période des fêtes et durant la saison des déménagements. À noter, de plus en plus d'administrations municipales permettent à leurs citoyens de déposer une demande de ramassage de gros rebuts par l'entremise d'un formulaire en ligne ou par une application mobile. Qu'est-ce qui est encombrant? Un canapé usé à la corde, une commode éventrée, une toilette fêlée, voilà assurément des rebuts embarrassants, peu importe que vous viviez à Rouen, à Sherbrooke ou à Gaspé. Recyc Québec propose une liste de ce qu'exclut cette catégorie. Les résidus verts, les déchets de construction, de rénovation et de démolition, CRD, et les pièces automobiles ne sont pas considérés comme des encombrants. Or, dans les faits, certains types d'objets indésirables peuvent être visés par la collecte des encombrants dans une ville donnée, mais pas dans la ville voisine. Les résidents de Gatineau comptent parmi les rares citadins à pouvoir larguer à la rue leurs petits appareils à essence. Ailleurs, la règle veut plutôt que vous les portiez à votre éco-centre. À Montréal, vos résidus, CRD, construction, rénovation, démolition, seront ramassés par les équipes de la collecte des rebuts gênants, mais pas à Trois-Rivières, où vous devez les transporter vous-même à l'éco-centre. Le traitement des branches et des souches est aussi soumis à l'arbitraire, avec les encombrants à Laval, à l'éco-centre à Québec. La plupart des municipalités exigent par ailleurs que les coussins et matelas infestés de punaises de lit et autres bestioles soient rendus inutilisables et ensachés avant d'être placés en bordure de rue. Et toutes les bonbonnes de gaz, propane et autres, doivent prendre le chemin de l'éco-centre ou être rapportées chez un détaillant autorisé. Du nouveau pour les frigos et autres réfrigérants. Depuis l'année dernière, un nouvel organisme mandaté par Recyc Québec supervise la récupération et le recyclage des appareils réfrigérants, frigos, congélateurs, celliers, climatiseurs, déshumidificateurs. Le programme de Go Recycle, financé par les détaillants et manufacturiers, prévoit la récupération et le recyclage sécuritaire du fréon et des autres matières premières par l'un ou l'autre des 6 recycleurs partenaires. Seul hic, vous devez livrer vous-même votre appareil à l'un des 260 points de dépôt, essentiellement des écocentres. Une exception. À Laval, un projet pilote en partenariat avec l'administration municipale et Go Recycle prévoit la levée des objets réfrigérants placés en bordure du bâtiment, précise le directeur général de l'organisme, Jules Foisy-Lapointe. Quand ils sont en bordure de rue, ils sont ramassés par les ferrailleurs. Ces derniers, qui ne convoitent que les métaux, ne disposent pas des technologies qui permettent aux recycleurs accrédités de récupérer les plastiques et les gaz frigorigènes circulant dans la tuyauterie et les mousses isolantes de ces appareils. Cependant, la plupart des détaillants, surtout ceux qui sont affiliés à une chaîne, offrent un service de collecte des gros appareils réfrigérants lors de la livraison d'un appareil neuf, précise M. Choisy-Lapointe. Peinture, pneus, électronique et tutti quanti. D'autres objets de taille plus modeste peuvent aussi s'avérer encombrants, surtout à la veille d'un déménagement. Que faire de ce cinéma maison fatigué ou de cette imprimante désuète? Tous les appareils électroniques mal aimés peuvent trouver refuge dans l'un des points de dépôt pour les serpuariens situés dans un écocentre, un supermarché ou un détaillant en électronique. Les pneus élimés? Allez hop, chez le garagiste! C'est probablement plus près que l'écocentre où vous pouvez également les abandonner. Idem pour les huiles usées, antigel, filtre à huile, contenant, aérosol ou non, de lubrifiants, etc. La peinture, la teinture, le vernis, tout ça se recycle. Les écocentres, tout comme la plupart des centres de rénovation et des quincailleries, reprennent les pots vides, ou pas. S'il est parfois contrariant de se prévaloir de l'un ou l'autre des services de récupération cités plus haut, rappelez-vous que vous avez intérêt à le faire. Vous les financez en acquittant des écofrais à l'achat d'un frigo, d'un galon de peinture, d'un téléviseur, etc. Avant de tout jeter à la rue. Personne ne va vous reprocher de vouloir renouveler votre mobilier, mais cette table, ce fauteuil et ce canapé ne pourraient-ils pas égayer un autre salon? Donnez-leur une seconde vie. Si l'organisation d'une vente débarras est trop compliquée pour vous, rabattez-vous sur les petites annonces en ligne. Vous avez un grand cœur? Contactez un organisme communautaire qui saura en faire profiter des personnes moins fortunées. Si la mise au rebut est la seule solution envisageable, prenez bien connaissance des règles en vigueur dans votre municipalité en consultant son site ou en contactant le service responsable de la gestion des matières résiduelles. C'était « Rebut encombrant sur le trottoir ou à l'écocentre », un texte de Jean-François Gazaille, paru le 7 juin 2022 dans « Protégez-vous ». Voici pourquoi nous rions lorsque quelqu'un tombe, selon la science. Un texte de Geneviève Beaulieu-Pelletier, paru le 6 février 2023 dans La Conversation. Qui d'entre nous ne s'est jamais esclaffé de rire en apercevant un ami trébucher sur le trottoir, se cogner la tête en se relevant ou manquer une marche en montant l'escalier? Je suis la première à me déclarer coupable de cette réaction. Je tiens d'ailleurs à m'excuser encore à ma collègue Jenny pour ce fou rire sans fin que j'ai eu lorsqu'elle s'est écroulée au ralenti, comme par petites secousses qui ont semblé interminables, ses jambes engourdies, pour la voir finalement aboutir sur le plancher. Maladresse, déséquilibre, chute. C'est le matériel de base des péripéties de Charlie Chaplin, des prestations burlesques avec des plures de bananes et des émissions de type drôle de vidéo dans lesquelles on aperçoit des enfants tombés et des gens s'enfarger. Témoins de ces scènes, nous rions de bon cœur, souvent de façon incontrôlable. Est-ce que nous ne devrions pas éprouver de l'empathie pour l'autre qui, après tout, se retrouve dans une situation de vulnérabilité qui peut être potentiellement humiliante? Rassurez-vous, nous ne rions pas nécessairement par manque d'empathie ni par sadisme. Comme psychologue, clinicienne experte dans le domaine de la régulation des émotions, je vous propose d'apporter un éclairage sur les ingrédients dans ces situations qui ont un grand potentiel de déclencher nos rires, souvent bienveillants. Nous rions de bon cœur lorsque nous sommes assurés que la personne qui a fait une chute ne s'est pas blessée. Shutterstock. L'imprévisibilité et l'incongruité. Le premier de ces ingrédients est l'effet de surprise. Plus spécifiquement, c'est de voir une personne surprise par une situation de la vie quotidienne alors que tout était sous contrôle pour elle quelques secondes avant. La situation inattendue nous surprend et crée un écart avec le prévisible, avec ce qu'on s'attendait à voir. Cette situation incongrue souligne nos erreurs de prédiction. On prédisait que la suite de X serait Y, et finalement, la suite s'impose de façon inattendue via B. Nous avons fait une erreur dans notre prédiction de ce qui allait survenir. Ce n'est plus cohérent. Rire de la situation serait une manière de résoudre l'incongruité en formulant une nouvelle interprétation comique plus cohérente de ce dont nous sommes témoins. L'expression du visage. Face à cette situation surprenante et incongrue, notre cerveau part à la recherche d'informations qui nous permettront d'interpréter ce qui se passe et de réagir en conséquence. Qu'est-ce que le visage de la personne qui trébuche nous communique? Ce qu'on va y décoder va être déterminant de notre réaction. Une étude a exploré cette avenue de recherche auprès de participants qui devaient visionner 210 images représentant trois types de visages. Des visages exprimant un air perplexe, des visages exprimant de la souffrance ou de la colère et des personnes avec le corps placé dans des positions malencontreuses sans que le visage ne soit visible. Par exemple, visage caché par des skis ou encore la tête montrée de profil avec le visage caché par le bras de la personne. Un surplus de 20 images de paysages avait été ajouté à travers l'ensemble des photos pour confondre les participants quant au but de l'étude. Il était demandé aux participants d'appuyer sur un bouton chaque fois qu'apparaissait une image de paysage et leur activité cérébrale était enregistrée durant la tâche. Les participants devaient également indiquer à quel point ils trouvaient chaque image drôle. Au terme de l'étude, les participants ont évalué les images présentant les visages perplexes comme étant plus drôles que les images sur lesquelles les visages exprimaient de la souffrance ou de la colère, et plus drôles que les images sur lesquelles on voyait des corps dans des positions burlesques mais sans voir l'expression du visage. Les données cérébrales ont également soutenu l'expression du visage comme étant un ingrédient à la base de notre hilarité dans ces situations saugrenues. Ainsi, lorsqu'on perçoit de la perplexité dans l'expression du visage de la victime de maladresse, air interloqué, surpris, ahuri, cette information met la table pour déclencher notre fou rire. Par contre, si on peut lire dans l'expression du visage de la souffrance ou de la colère, on sera alors touché par la détresse de la victime de la chute, empathique à sa détresse, ce qui nous préviendra de rire. Nos circuits neuronaux auraient donc la capacité de reconnaître et d'apprécier les éléments drôles des situations de malchance en analysant le contexte comme étant non menaçant. Et si c'était moi? Être témoin de la situation malencontreuse d'une autre personne nous pousse à nous imaginer nous-mêmes dans cette même situation. Et si c'était moi? On s'identifie à ce qu'elle vit et à ce qu'elle doit ressentir. Cet exercice d'empathie peut rapidement activer en nous des enjeux de malaise, d'impuissance, d'humiliation et de honte. Le rire permet alors d'extérioriser notre soulagement de ne pas être à la place de cette personne malchanceuse. Soyons pardonnés de rire dans des situations comiques de maladresse d'autrui. Nous ne rions pas de la souffrance ni de la détresse de l'autre. Nous réagissons à la surprise, à l'incongruité et à l'expression ahurie de l'autre, en ayant décodé qu'il ne soit pas en détresse, ni ne s'est vraiment fait mal. Au plaisir de vous faire rire après m'être empêtré les pieds dans une craque de trottoir. C'était « Voici pourquoi nous rions lorsque quelqu'un tombe selon la science », un texte de Geneviève Beaulieu-Pelletier, paru le 6 février 2023 dans « La conversation ». Les plantes peuvent-elles purifier l'air de nos maisons? Un texte de Amélie Cléroux, paru le 9 novembre 2022 dans « Protégez-vous ». Selon différents ouvrages et sites web, les plantes d'intérieur seraient dépolluantes et bénéfiques pour la qualité de l'air dans nos habitations. Faut-il croire ces prétentions? Cette réputation élogieuse a pour origine une expérience menée par la National Aeronautics and Space Administration, NASA, en 1989. L'agence américaine cherchait des moyens pour purifier l'air dans ses installations spatiales. Sa conclusion? Les plantes ont des capacités dépolluantes. D'autres études sont aussi arrivées au même constat, voulant que les plantes, certaines plus que d'autres, absorbent plusieurs composés organiques volatiles provenant notamment des matériaux de construction. Le hic, les conditions en laboratoire où ces tests ont été effectués sont bien différentes de celles de nos demeures. En effet, les maisons et logements sont plus grands et beaucoup moins étanches à l'air que de tels labos. Surtout, il faudrait une quantité astronomique de plantes pour avoir une telle incidence. Les chercheurs Michael S. Waring et Brian E. Cummings de l'Université Drexel aux États-Unis ont analysé les résultats d'une douzaine d'études menées depuis 30 ans sur la qualité de l'air intérieur. Ils ont publié leurs résultats en novembre 2019 dans le Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Leur constat, entre 10 et 1000 plantes par mètre carré de surface au sol serait nécessaire pour atteindre la capacité de purification d'un système de traitement de l'air d'un bâtiment ou même de quelques fenêtres ouvertes. Autrement dit, ne comptez pas sur vos plantes pour purifier l'air chez vous, ce qui ne les empêche pas de magnifier votre décor et de vous apporter bien du bonheur. C'était « Les plantes peuvent-elles purifier l'air de nos maisons ?» un texte de Amélie Cliroux paru le 9 novembre 2022 dans « Protégez-vous.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.